Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, nous entamons aujourd'hui une nouvelle émission. Aujourd'hui, lundi 17 juin 2019, la veille de ce fameux appel du 18 juin 1940, dont tous les Français se souviennent, quel que soit leur bord politique. La semaine dernière, et j'invite pour cela nos auditeurs à aller regarder sur nos podcasts, le site de Radio Galère, en tapant Radio Galère sur Google, vous avez accès à toutes les émissions. Celle-ci, c'est Mets de Résistance, Mets METS, comme un plat gourmet que l'on se plaît à déguster dans le calme et la bonne humeur, et si possible en toute amitié avec d'autres. Et sur le site de Mets de Résistance, vous avez tous nos podcasts. Alors la semaine dernière, l'émission d'aujourd'hui, je la jumelle avec celle de la semaine dernière où nous avons parlé de la classe politique française à la lumière des résultats des dernières élections européennes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du principe de fraternité. Tout le monde sait que notre devise républicaine est formée de trois termes : liberté, égalité et fraternité. Et si les notions de liberté, d'égalité ont été largement commentées, ont fait l'objet de nombreux commentaires, mais aussi d'applications concrètes, le principe de fraternité, lui, est un principe qui reste encore flou. Et je pense qu'il est nécessaire, si l'on veut construire notre République, de le rendre plus complet au niveau de sa définition. Et nous avons le devoir d'esquisser pour lui un chemin à travers notre histoire de France, puisque ce principe n'est pas né de rien, il n'a pas émergé, il n'est pas tombé du ciel en 1789. Il remonte à très loin. La fraternité, être frère, c'est important pour les Français. Et à la lumière de ce que nous avions dit la semaine dernière au sujet d'une France mixte et résistante, je pense résistante devant l'adversité, devant ceux qui veulent qu'on adopte des politiques qui ne correspondent pas à notre pays et à notre économie ou à notre société et à son histoire, à sa spécificité, sa singularité, nous devons de résister. Et par cela, nous devons tout faire pour continuer à promouvoir la mixité à tous les niveaux, la mixité de genre, la mixité sociale, la mixité de culture d'appartenance, la mixité de milieu d'origine. Il n'y a que comme cela que nous pouvons construire notre République. La République française n'existera jamais sans tout cet apport et toutes ces richesses que j'évoque. Donc, le principe de fraternité fait partie de la devise de la République française. Si j'en parle, et si j'ai parlé aujourd'hui, alors que nous sommes à la veille de la date anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, c'est parce que lorsque le général de Gaulle a fait son appel depuis Londres le 18 juin 1940 pour dire aux Français qu'il y avait une autre alternative que le nazisme et l'acceptation de l'occupation, avec tout ce qui peut aller avec, dont nous avons à guérir aujourd'hui, il a fait appel au sens français de la fraternité. Qu'est-ce que signifie fraternité ? C'est un mot, j'ai essayé de le définir, c'est un terme qui est très intéressant, parce qu'il trouve sa genèse, comme je le disais tout à l'heure, non pas devant la fraternité des sans-culottes révolutionnaires et de ceux qui ont guidé la révolution du haut de leur balcon, il fait appel à un patrimoine qui est beaucoup plus ancien, qui date peut-être même d'avant le Moyen-Âge. Donc, à l'occasion, il faut savoir, enfin, je le rappelle quand même, qu'il y a quand même, au niveau constitutionnel et juridique, des avancées, mais elles sont très récentes. On a attendu 2019 pour que le Conseil constitutionnel s'intéresse au principe de fraternité à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier, que l'on a appelé un délit de solidarité ou délit d'hospitalité, puisqu'il y a des gens qui ont été punis par la loi, par des tribunaux, parce qu'ils avaient aidé des réfugiés, ils les avaient hébergés. Donc le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour la première fois sur la valeur constitutionnelle du principe de fraternité dans sa décision du 6 juillet 2018. C'est donc un principe à valeur constitutionnelle et non un principe fondamental. D'accord, on est d'accord, il n'est pas encore un principe fondamental des lois de la République, il n'a pas été érigé en PFLR, il reste encore un principe à valeur constitutionnelle. Il faut savoir que nous avons plusieurs grands principes qui guident notre droit, du sommet de la hiérarchie des règles juridiques, c'est-à-dire la Constitution. Il y a d'abord la Constitution elle-même avec ses textes fondateurs qui font partie de son préambule, qui ont été constitutionnalisés en 1971, on aura attendu 1971 là encore, pour constitutionnaliser la déclaration de 1789 et le texte des droits sociaux et civiques, des droits sociaux de 1946, et puis qui contient notamment une conception renforcée et plus pragmatique du principe de non-discrimination. Mais nous avons également, nous avons donc constitutionnalisé ces deux textes en 1971, c'est donc une grande première avancée, celle qui est récente sur le principe de fraternité en est une autre. Et donc, en dehors de la Constitution à proprement parler, il y a des principes. Donc, il y a les principes fondamentaux des lois de la République qui sont opposables juridiquement et sur lesquels le Conseil constitutionnel peut statuer en disant que si on contredit ou si on viole un de ces principes, c'est grave, c'est anticonstitutionnel. Donc, ça protège les citoyens dans leurs droits. Et les organisations aussi. Et puis, nous avons également les principes à valeur constitutionnelle, qui sont des principes qui ne sont pas érigés en PFLR, mais qui ont quand même une valeur constitutionnelle et sur lesquels nous devons être vigilants. Et puis, il y a les objectifs à valeur constitutionnelle, qui sont des objectifs qui ont été énumérés par le Conseil constitutionnel, qui ont été définis en tant qu'objectifs à valeur constitutionnelle, qui montrent quel est le chemin que doit suivre notre droit constitutionnel. Et j'irai à travers lui le droit tout entier, puisque la Constitution est au sommet de la hiérarchie des règles juridiques, et non pas, bien entendu, le droit européen ou le droit international. Et donc avec le principe de fraternité, nous avons affaire à un principe à valeur constitutionnelle, et on souhaite qu'un jour ça devienne un principe fondamental, bien entendu. Cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée par la Cour de cassation et elle portait sur deux articles au Conseil constitutionnel, bien entendu. C'est la Cour de cassation qui s'est occupée de la QPC et elle a renvoyé au Conseil constitutionnel qui a été chargé de statuer, puisque c'est une affaire constitutionnelle. Et donc la QPC portait sur deux articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L622-1 qui, dans son alinéa 1, mentionne que le fait d'aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et enfin, deuxième article, toujours donc du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L622-4 qui prévoit plusieurs cas d'exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit prévu à l'article L622-1, donc le premier. Plus précisément, l'alinéa 3 de l'article L622-4 permet une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consiste à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Il était notamment reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de fraternité pour deux raisons. L'immunité prévue par l'alinéa 3 de l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique uniquement lorsque la personne est mise en cause pour aide au séjour irrégulier et non pour aide à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est pas prévu d'immunité en cas d'aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n'ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Selon le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portait donc sur les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur l'alinéa 3 de ce même article. Donc, c'est la première fois qu'on statue sur le principe de fraternité. Ça crée un précédent dans notre droit constitutionnel et par extension dans notre droit tout entier. Et je pense qu'on en devrait être amené, bien entendu, à généraliser le champ de la réflexion autour de ce principe de fraternité. Et de sa valeur constitutionnelle, dans le but peut-être un jour d'en faire un principe fondamental des lois de la République, reste à le définir, parce que la fraternité, c'est une notion qui est très large, qui s'applique ici, dans ce cas concret, à l'aide aux réfugiés qui étaient en situation de difficulté. Donc il s'agit d'une aide humanitaire, c'est ainsi que le Conseil constitutionnel l'a défini. Et donc il va falloir que l'on étende ce principe, parce que par exemple, on pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure le fait de laisser toute une famille, voire même un individu esselé tout seul, assis sur des cartons dans la rue pendant une nuit d'hiver, peut être un délit de fraternité également. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas laisser des gens dormir dans le froid la nuit, puisqu'on sait déjà qu'il y a des gens qui en sont morts. Des fois, on voit des familles qui vivent dehors dans la rue, qui sont assises. Et donc, je pense que à terme, on devrait peut-être mettre en place mettre en avant un délit de fraternité qui ne toucherait peut-être pas tous les citoyens. C'est pas de votre faute si en rentrant de faire vos courses vous avez rencontré une famille qui allait dormir dehors en plein mois de décembre. Mais cela dit, vous êtes bien embêté, vous vous sentez coupable, et c'est toute la société française, à travers un certain laisser-aller des pouvoirs publics à ce sujet-là, qui une certaine négligence également, qui est touchée. Et donc nous sommes tous concernés par ce délit de fraternité-là, qui, je pense, devrait être imputé au pouvoir public, et donc particulièrement aux collectivités locales. Donc voilà pour la fraternité. Alors d'où, puisqu'on en est à parler de droit constitutionnel, eh bien je pense que nous devrions éplucher un petit peu la Constitution française et essayer de voir où est-ce qu'on parle dans la Constitution française de la fraternité, du principe de fraternité. C'est important, la Constitution, c'est un texte qui préserve nos droits fondamentaux de citoyens, qui fait également que nos pouvoirs publics ont une certaine façon de fonctionner qu'on ne peut pas contredire, et il pose les principes d'intégrité, de souveraineté du territoire et de l'État, des principes qui sont très importants, on s'en rend pas toujours compte. Mais en 1939, lorsqu'on a été envahi, et c'est pour ça que je rappelle l'appel du 18 juin du général de Gaulle, dont on citera des extraits tout à l'heure, à cette époque-là, on sait bien, les gens on se sont bien rendu compte à quel point le fait de contrevenir à la Constitution en se laissant annexer, et en attaquant notre souveraineté et notre territoire, pouvait être néfaste à notre histoire et ainsi à une certaine fierté d'être français. Donc voilà pour la Constitution, pour ma petite explication sur l'importance du texte constitutionnel, où se trouve le principe de fraternité dans la Constitution. Il y a trois textes principaux. D'abord, le préambule de la Constitution. J'en ai parlé tout à l'heure. Il contient trois textes, dont deux qui ont été constitutionnalisés en 1971, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946. Et puis, il ne faut pas oublier la Charte des droits et devoirs définie dans la Charte de l'environnement de 2004. Les droits et devoirs qui ont été définis dans la Charte de l'environnement qui a été constitutionnalisée en 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, est conçue en vue de leur évolution démocratique. Donc cette fraternité, elle ne se confine pas à l'Hexagone, au territoire français à proprement parler, elle s'étend à tous les endroits où on, où la France est présente, et notamment dans le Pacifique, ainsi que aux Antilles, par exemple, c'est-à-dire sur les territoires d'outre-mer. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie a choisi l'année dernière de rester, de continuer à faire partie de la République française. Donc, le principe de fraternité s'applique aussi à la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle également que c'est très important d'étudier le préambule de la Constitution de 1958 parce que ce préambule contient des principes fondamentaux qui sont très importants, et notamment le principe de la souveraineté nationale. Deuxième source du principe de fraternité, l'alinéa 4 de l'article 2 de la Constitution, qui nous dit quoi ? Ce qu'on disait tout à l'heure, que tout le monde connaît, parce que c'est marqué de partout en haut des mairies, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire frère. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle certains principes de la franc-maçonnerie. À l'époque où la franc-maçonnerie était encore puriste, on va dire, était encore une organisation vouée à mettre en place la paix dans le monde, avait la fraternité pour tous, y compris les femmes. Bien entendu, j'insiste là-dessus, il a fallu se battre pour ça. Troisième source, l'alinéa 1 de l'article 72-3 de la Constitution. Que nous dit cet article 72-3 ? Il nous dit « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. » Et là encore, je me permets d'y ajouter un peu ma sauce et de faire un petit commentaire. Si on parle tout le temps des territoires d'outre-mer, c'est parce que c'est très important que la France soit présente dans d'autres États. Alors bien entendu, aujourd'hui, on ne colonise plus. L'Empire colonial français, c'est terminé. Par contre, il y a des territoires d'outre-mer, des territoires qui ont choisi de rester en France, même si dans leurs institutions, leur manière de fonctionner sur le plan institutionnel, parfois il y a des variantes par rapport à ce qui se passe sur l'Hexagone, mais par exemple des assemblées particulières, d'autres manières de débattre contradictoirement et de débattre des questions relatives à l'intérêt public, des assemblées spécifiques, mais là il faudrait aller regarder les particularités de chaque territoire d'outre-mer. Mais cela dit, la France y est présente, c'est encore la République française qui peut être présente, par exemple, juste à côté du territoire des États-Unis lorsqu'elle est lorsqu'elle est aux Antilles, et puis par exemple à côté de Cuba, ou qui peut être présente dans le Pacifique, à 2000 km quand même, mais bon, on va dire entre guillemets, tout est relatif pour eux là-bas, 2000 km quand vous êtes à Wallis et Futuna, 2000 km pour aller en Nouvelle-Calédonie ou en Chine, c'est pas si loin que ça. Ça dépend de la manière chez nous, en France, c'est loin, 2000 km. Mais pour eux, c'est rien parce qu'ils sont isolés. Et donc, la France est présente, la République française est présente vers ces territoires-là, vers l'Asie, vers l'Australie. Et donc, c'est très important que la République française ait une présence là-bas. Et j'allais penser notamment aussi à autre chose, l'Alliance française, qui est une association qui fait la promotion de la langue française un peu partout dans le monde. Ce sont des valeurs et des institutions qui sont à défendre. Voilà. Toutefois, cependant, il faut... Le Conseil constitutionnel, qui a donc statué dernièrement sur le principe de fraternité, donc s'est attaché bien entendu à ces trois textes que je viens de citer, donc le préambule de la Constitution, l'article 2 de la Constitution, l'article 72-3 de la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a quand même précisé que le législateur, donc celui qui fait la loi, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale, doit assurer la conciliation entre le principe de fraternité, c'est-à-dire ici, dans notre cas présent, c'était la liberté d'entraide, et c'est aussi le cas, par exemple, dans ce que je disais tout à l'heure, pour les gens qui sont dans la rue, et la sauvegarde de l'ordre public. Donc, il y a deux choses qui peuvent être incompatibles parfois, c'est la mise en avant du principe de fraternité, la sauvegarde de l'ordre public. Bien entendu, on ne peut pas garder chez soi un djihadiste qui se cache avec ses armes pour qu'il échappe à la police. Oui, ça c'est là, c'est plus du principe de fraternité, quoi. C'est du sadomasochisme. Donc, forcément, là, j'ai pris un exemple caricatural. Forcément, il faut savoir concilier ces deux principes. C'est ce que nous a dit le Conseil constitutionnel, le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. La sauvegarde de l'ordre public est un principe qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle lui aussi. Ici, c'est un objectif à valeur constitutionnelle et non plus un principe à valeur constitutionnelle. La différence, c'est que les objectifs à valeur constitutionnelle sont quelque part plus opérationnels et moins généralistes. Je vais citer ici le Conseil constitutionnel qui nous dit: aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe à la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Voilà ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Donc attention, mettre en avant, se servir du principe de fraternité pour aider n'importe qui ou pour cacher des gens qui ne devraient pas être là ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, mais également au territoire et à son intégrité, peut être un délit. Même si on met en avant le principe de fraternité, parce qu'on va vous dire que l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public, même si vous posez une QPC, ce principe de sauvegarde de l'ordre public a été violé. Ce qui est très grave. Enfin, il convient de noter que la liberté d'aider autrui n'est qu'une première facette du principe de fraternité. D'autres applications pourraient voir le jour. Donc ça, c'est très important. Il faut bien garder à l'esprit ces choses et donc, bien entendu, ne pas faire n'importe quoi. Alors, toutes les dispositions qu'a pris que prend le Conseil constitutionnel consiste à dire que il ne faut pas méconnaître le principe de fraternité et parfois il faut être capable de s'en référer à peut-être des agents de l'ordre public lorsque on a affaire à une question de conscience qui se pose. Je sais pas, ça, il peut arriver que on ait des voisins qui font des choses bizarres, qu'on voit les voit passer avec des armes ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, je pense que le principe de fraternité doit s'appliquer à l'ensemble de la collectivité et que l'on a le devoir de citoyen d'aller saisir des personnes compétentes à qui on peut avoir confiance et de leur expliquer ce qu'on a vu et de leur parler de nos soupçons, même si on n'est pas sûr que c'est vrai, on peut, mais si on a vraiment de gros doutes et qu'on n'arrive pas à dormir la nuit, je pense que c'est très important d'aller le dire. C'est pas de la délation comme ça s'est passé pendant la collaboration française, c'est juste une question de bon sens visant à protéger autrui. Parce que je pense que si on a eu des attentats chez nous et que s'il s'est passé tous les actes de violence qui ont pu arriver, c'est justement parce que beaucoup ont fermé les yeux en pensant qu'on ne pouvait pas avoir confiance en l'État et aux représentants de la force publique et que beaucoup auraient pu faire quelque chose en disant ce qu'ils savaient. Or, on le sait, lorsqu'on a des gens de sa famille qui ont disparu parce qu'ils sont allés en discothèque ou voir un concert ou aller à l'église, eh ben on comprend ce que c'est que. On comprend à quel point le principe de fraternité peut aussi être interprété comme un moyen de sauvegarder l'ordre public pour la sécurité des personnes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction entre fraternité et sauvegarde de l'ordre public. Bien au contraire. La reconnaissance du principe de fraternité implique en l'espèce que tous les actes d'aide apportés à des fins humanitaires doivent bénéficier de l'exemption pénale. Mais attention, pas pour tout. Cette exemption doit s'appliquer aux actes facilitant ou tentant de faciliter le séjour en France d'un étranger en situation irrégulière ou facilitant ou tentant de faciliter sa circulation lorsqu'elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger. Mais, et là, je vais bientôt en terminer avec cette question des réfugiés, cette exemption, la notion d'acte d'aide apporté à des fins humanitaires reste floue encore, on ne l'a pas encore bien définie. Il appartiendra donc au législateur, c'est-à-dire à celui qui fait les lois, et à la jurisprudence, celle des tribunaux, d'en apprécier les contours. Donc pour l'instant, lorsque on aide un réfugié ou un étranger, on peut être en situation irrégulière. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas encore eu de loi qui définit de manière très stricte et très réglementée les contours de cette problématique-là. Donc attention. Voilà, donc je rappelle juste une petite affaire, celle du maire de Besançon, parce que là, il est question justement de la mendicité. Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, le 28 août 2018, avait été saisi d'une demande de suspension d'un arrêté anti-mendicité pris par le maire de la ville de Besançon. Il, après avoir fait référence à la décision du Conseil constitutionnel qui a dit « De ce principe découle la liberté fondamentale d'aider autrui dans un but humanitaire », le juge des référés, c'est-à-dire celui qui juge en urgence, a rappelé que cette liberté n'avait pas de caractère général et absolu et devait être conciliée avec l'objectif de préservation de l'ordre public. Donc on ne peut pas se prévaloir de la liberté de mendier en se fondant sur le principe de fraternité. Mais par contre, en se fondant sur le principe de fraternité, on peut se promouvoir d'avoir créé une association qui s'occupe des personnes qui sont en état de mendicité, ou en tant que maire, ouvrir des locaux pour héberger les gens qui mendient, surtout l'hiver, de manière correcte et décente, et les nourrir. Ça, c'est important. Donc, le but, l'arrêté du maire, c'était d'éloigner des quartiers les plus passants du centre-ville certaines catégories de personnes vulnérables. Et donc, c'est pour ça que ça a fait litige. Voilà, je voulais juste en parler. Donc là encore, la demande de suspension de l'arrêté a été rejetée parce qu'il a été jugé par le tribunal administratif de Besançon que l'atteinte portée à la liberté d'aider autrui n'était ni suffisamment grave ni manifestement illégale. Le maire de Besançon, pour votre gouverne, a pris depuis un nouvel arrêté qui est particulièrement intéressant. Il a supprimé l'interdiction de la mendicité et aujourd'hui, il interdit l'occupation de manière prolongée, en station debout, allongée ou assise, des voies publiques, lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, que cette occupation soit accompagnée ou non de sollicitations à l'égard des passants. Et enfin, voilà, c'est tout. C'est tout au sujet de Besançon. J'irai pas plus loin. On va arrêter ici avec le droit constitutionnel. Voilà. Alors, pour en revenir au principe de fraternité, il y a encore des lacunes. On a encore beaucoup de travail à faire, aussi bien au niveau jurisprudentiel qu'au niveau législatif, qu'au niveau des arrêts du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, ainsi que peut-être de la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation participe beaucoup à l'évolution du droit. Et on a beaucoup à faire pour définir le principe de fraternité, parce qu'on le connaît, parce qu'il est dans la devise républicaine, mais souvent il est très mal mis en avant et très mal défini. C'est un principe qui, encore davantage que les autres, se nourrit et se concrétise de faits et d'actes réels. Et je voulais dire que malheureusement, aujourd'hui, le principe de fraternité reste encore trop confiné au milieu associatif. Alors même qu'il s'agit d'une question qui est de l'ordre de l'intérêt général et qui devrait relever de la mission de service public. Il faudrait une nouvelle constitution. Si un jour on a une nouvelle constitution, il faudrait dans cette nouvelle constitution, qui serait peut-être la constitution de la 6e République, il faudrait mettre en place beaucoup d'innovations juridiques allant dans le sens d'une meilleure concrétisation du principe de fraternité. C'est l'éveil républicain au sens citoyen du terme qui est en jeu. Cet éveil républicain montre qu'il est prêt, qu'il a envie de s'exprimer, notamment depuis la crise de 2008 des subprimes, qui a conduit à plusieurs collectifs, notamment dernièrement les Gilets jaunes. Alors, tout ça, mais notamment la violence des Gilets jaunes, marque une volonté de voir se construire cet aboutissement d'un concept issu de 1789, pour ce qui est de sa mise sur le papier. Bien entendu, il a été gravé sur les tables de la loi, mais il existait bien avant, et c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Il faudrait renouveler par le truchement d'une révision constitutionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou d'une nouvelle constitution. Il faudrait renouveler l'écriture de notre droit, parce que notre constitution et notre droit ne sont pas figés, bien entendu. Ils doivent être envisagés comme un perpétuel chantier sans cesse en mouvement qui épouse les contours d'une société française qui change. Alors, pour revenir à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on va reprendre la définition de chaque mot. Liberté, c'est le premier mot de notre devise constitutionnelle. Pourquoi il a été mis en premier? Bah, tout simplement parce que la Révolution française traduisait un immense désir de liberté du peuple français par rapport à certaines exigences et à une certaine rigidité de la monarchie. Même si la monarchie sous Louis XVI était une monarchie évolutive et relativement condescendante et tolérante, ça n'a pas été suffisant pour oublier ce qui s'était passé précédemment, et notamment sous Louis XIV. Je rappelle, sous Louis XIV, des phénomènes tels que la lettre de cachet, par exemple. Voilà. Donc, ce principe de liberté est important, les Français y tiennent. Il a fait l'objet d'une mise en œuvre juridique concrète via la jurisprudence et les différentes branches du droit. Il faut aussi, maintenant, pour mettre en place la République, faire le même effort pour les deux autres éléments de notre devise, c'est-à-dire l'égalité et la fraternité. Au nom de la liberté, du principe de liberté, et notamment de l'article 16, mais également, pardon, de l'article 16 de la Déclaration de 1789, la propriété est un droit est un droit inviolable et sacré. Et nous avons réussi à mettre en place, sous couvert d'un système libéral, une forme d'avalisation du capitalisme. C'est-à-dire qu'on s'est servi du principe de liberté avec l'article 16 de la Constitution pour qu'au nom d'une certaine forme de libéralisme que l'on confondait avec le terme liberté, on laisse le patronat français, les entrepreneurs, et même pas les... Non, pardon, pas les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est ceux qui innovent. Je veux dire ceux qui possédaient le capital commandé en France, à la place du peuple français. C'est d'ailleurs ce qui explique notamment pourquoi nous, Français, on s'est vu voler no nous se faire voler notre révolution. Par le Premier Empire. Et donc nous sommes frustrés, c'est pour ça que ça se passe pas bien, c'est pour ça qu'il y a eu la révolte de la Commune, et c'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, toutes ces violences qui liées aux Gilets jaunes dernièrement. Donc la liberté, c'est bien, et si on l'a autant mis en avant, mais si on l'a autant mis en avant, c'est parce qu'on l'a pas encore bien compris, et on n'a pas compris que la liberté, c'était pas seulement ne pas faire ce qui ne nuit pas à autrui, c'était la liberté de choisir sa vie. Et donc c'est pour ça que je prône, et d'ailleurs c'est dans une de mes émissions qui sont en podcast, le revenu inconditionnel d'existence, qui permet chacun d'avoir un revenu de base, qui lui permet de pourvoir à ses besoins fondamentaux, sur le plan économique, de façon à pouvoir ensuite tranquillement choisir sa vie professionnelle ou associative, selon ce qu'il choisit de faire. Et ça, c'est une vraie liberté pour tous. Et donc la liberté, il ne faut pas confondre ça avec le principe de libéralisme économique, même s'il y a des côtés très positifs dans le libéralisme économique, qu'il ne faut pas non plus confondre avec le capitalisme, comme je l'ai expliqué la semaine dernière dans mon émission qui est en podcast. Nous allons faire une petite pause. La pause musicale habituelle, nous allons mettre la chanson de Téléphone, un groupe de rock, la chanson de Téléphone, Ce que je veux. Thank you. J'ai mis un groupe de rock français cette fois-ci. Le rock français, c'est un rock qu'on ne met pas toujours en avant. C'est un groupe qui a été important à son époque, dans les années 80, qui est un petit peu symbolique d'une certaine France de gauche, celle de la marche, celle également une des toutes premières marches françaises. Il y en a eu plein d'autres après 2008, mais également celle d'un certain état d'esprit qui a été positif, puisque constructif, puisqu'il a conduit à l'élaboration de chansons, de musique. Et donc il a fait quand même des choses concrètes, même si la semaine dernière, bien entendu, je critique souvent mai 68, et ainsi qu'un certain état d'esprit que je qualifie parfois de gauchiste, dans le sens où parfois il oublie des choses essentielles, comme par exemple la Constitution ou le droit. Ça peut arriver, ou alors parce que il ne pense peut-être pas suffisamment à l'élaboration, à l'importance de l'économie pour pouvoir faire fonctionner un État. Et ça, n'en restons pas à des doux principes ou à une idéologie gentille du bon penser. Nous ne sommes pas dans 1984 où il faut penser de manière humaniste. Il vaut mieux agir de manière humaniste et fraternelle. C'est aussi là que se joue la fraternité. La fraternité ne se contente pas de beaux discours. La fraternité, c'est d'abord des actes concrets. Mais c'est pas pour critiquer Téléphone, parce que j'aime beaucoup ce groupe et j'ai fait un compliment tout à l'heure. J'ai dit que le rock français était important et qu'il pouvait aboutir, et la musique aussi en général. Et n'oublions pas que les premiers politiques sont des musiciens, puisque notamment en Afrique, les politiques, c'est d'abord des musiciens parce qu'ils s'expriment par leurs chansons. Voilà. Alors, comme nous sommes la veille de l'appel du 18 juin et que nous faisons une émission sur la fraternité, ou du moins qu'on essaye de définir ce que c'est que le principe de fraternité, je propose de lire un extrait de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, parce que c'est un appel qui a été important, parce qu'il a, à une époque où en France ça se passait pas bien, parce que la France était envahie par l'Allemagne et parce que beaucoup de Français étaient en déroute. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient contents d'être avec les Allemands et de collaborer avec eux. Et puis, beaucoup n'étaient pas contents que ça. Étaient dans la défaite et dans l'échec. Et le général de Gaulle a redonné de l'espoir. Et on sait qu'en 1945, on a gagné. Donc, c'est un appel qui est important, et d'ailleurs demain, tout le monde va le fêter. Beaucoup vont le fêter, cet appel du 18 juin, en souhaitant, je souhaite qu'il ne soit pas récupéré par n'importe qui. Bien entendu, il y a une certaine éthique à mettre en avant sur la scène politique française, que cette éthique-là, on ne pourra jamais la changer. Elle n'est pas interchangeable à volonté. Ce sont des principes et des valeurs qui sont universelles et intemporelles. Et on ne peut pas faire n'importe quoi et récupérer, comme on l'a fait avec le programme du Conseil national de la Résistance, des trésors de notre patrimoine résistant, comme l'appel du 18 juin. Donc je lis quelques exemples qui nous parlent du principe de fraternité. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle, elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte, elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Donc ensuite, il conclut « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindrait pas. Voilà. Donc, c'est important d'en parler parce que il y a des choses qui font appel à notre fraternité de Français dans l'adversité, et je pense que nous ne devons pas nous faire envahir par les mauvais esprits, et nous devons continuer à lutter, que l'appel vienne de Londres ou d'ailleurs. D'ailleurs, le général de Gaulle dit demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres, et c'est très important que l'on puisse communiquer. La radio, c'est un média qui est important aussi dans ce sens-là, et nous devons aujourd'hui, lorsque mettre en place ce que le général de Gaulle appelle une force mécanique supérieure. Qu'est-ce que c'est que cette force mécanique supérieure? J'allais presque dire, c'est presque une force spirituelle supérieure. Spirituelle, non pas au sens religieux du terme, mais dans le sens de s'apprécier les uns et les autres et de se rapprocher les uns des autres dans un sentiment de fraternité entre Français. Ce qui ne veut pas dire non plus, attention, je n'utilise pas un terme d'extrême droite ici quand je dis entre Français, parce qu'aujourd'hui, il faut le voir, souvent, parler d'être Français, souvent, on croit que c'est être Front National. Attention, pourquoi est-ce que c'est le Front National, qui m'est devenu aujourd'hui le Rassemblement National, qui a récupéré ce jargon-là? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a récupéré la symbolique de la République avec le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marianne? Attention, être français, c'est beaucoup plus que tout ça. Et la Marianne et la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, la Marianne des Français, le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, ce sont des symboles qui appartiennent à tout le monde. D'abord parce que à l'ensemble de l'humanité, parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité, mais également mais aussi à tous les Français ou à ceux qui sont sur le territoire français aussi, qui se doivent de respecter ce patrimoine-là. Et donc, c'est pour ça que je le rappelle ici, je pense que c'est important, parce que, attention de ne pas nous faire voler notre patrimoine. Voilà. Donc, nous avons parlé du principe de liberté. Reparlons maintenant du principe d'égalité. Donc, je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait une véritable égalité, il faut absolument mettre en place, il faut absolument que nous nous intéressions à la question des revenus des Français et notamment à la question de l'égalité de traitement. Par exemple, effectivement, il y a des gens qui payent plus d'impôts que d'autres. Effectivement, il y a des gens qui touchent des allocations et pas d'autres. Et souvent, malheureusement, ceux qui travaillent gagnent autant, si ce n'est parfois moins que d'autres qui ont des allocations. Ça dépend des cas de figure, bien entendu. Et donc, jusqu'ici, il y a plein de politiques qui ont été mises en place depuis les années 80, mais on n'est pas arrivé à résoudre ce problème. Je passe vite là-dessus parce qu'il y a plein d'émissions que j'ai faites dessus, il suffit de les regarder sur les podcasts, vous avez le titre et le résumé de chaque émission. Et donc, pour qu'il y ait fraternité, il faut mettre en place une vraie égalité. Or, les Français ne se sentent pas traités à égalité. Parfois, ils sont jaloux les uns des autres et cela crée une fracture entre individus et également un désintérêt pour l'État et pour la chose publique, ce dont nous souffrons aujourd'hui. Et ce qui fait que, d'ailleurs, ça explique ce phénomène de récupération par le Rassemblement national, par certaines factions qui sont issues, qui ont pour source historique des mouvements douteux, on va dire. Toute cette symbolique est facilement récupérée parce que nous, Français, on n'a pas réussi à se les approprier, justement à cause de ces jalousies, de cette fracture entre les gens, qui est liée à un sentiment de ne pas être vraiment à égalité les uns avec les autres, à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça que je reparle de mon ouvrage Revenu inconditionnel d'existence, budget et fiscalité, dans lequel j'explique que le revenu inconditionnel d'existence, c'est la seule politique économique qui peut résoudre tous nos problèmes économiques et même l'inégalité et la pauvreté, assortie, bien entendu, d'autres politiques. Voilà. Comment peut-on. Donc, Voilà pour l'égalité, donc liberté, on a expliqué ce que c'était. Ce n'est pas seulement une question de libéralisme économique et de mise en place du capitalisme, d'avalisation du capitalisme. L'égalité ne peut être mise en place que si on mène une politique de redistribution équitable et moderne qui remet tout à plat et qui supprime tout ce qui a été fait jusqu'ici pour repartir à zéro. Et puis, le principe, enfin, de fraternité, s'il y a une véritable égalité, les gens vont finir par plus s'aimer les uns et les autres, entre guillemets, et on va pouvoir mettre en place une vraie fraternité. Mais comment imposer la notion de fraternité à un ensemble d'individus homogènes, évoluant sur le même territoire ? Eh bien, d'abord, il faut savoir que la fraternité remonte à l'Ancien Régime, loin dans l'histoire de France. Et c'est un principe qui est très intéressant parce qu'il nous rappelle notre passé religieux sur lequel, bien entendu, en 1789, on a fermé les églises, on a détruit les statues, on a mis un certain nombre de prêtres au placard et on en a guillotiné certains. Mais cela dit, ça n'empêche pas que nous avons un passé religieux qui est important et qu'on est obligé d'en tenir compte, et puis il est encore présent aujourd'hui, pour comprendre notre histoire et rebondir dessus. Bien entendu, tout sectarisme, tout négationnisme en matière historique, quel qu'il soit, n'est jamais bon, parce que si on ne tient pas compte de notre histoire, si on ne part pas de notre histoire réelle, de nos racines, on ne prend pas la bonne voie, le bon chemin. Donc, il y a une notion à la fois, une connotation à la fois profane et sacrée dans le principe de fraternité. D'abord, profane, parce que ce qui est du profane relève de l'antique. Ça a trait à tout ce qui est civilisationnel. C'est la première enveloppe du château fort que l'on va ériger pour protéger tout un peuple. Et là, je rappelle André Breton et son idée d'un château fort où tout le monde devrait aller se cacher pour se protéger avec un système de pont-levis. Et autour du château fort, des douves avec les eaux sombres et nauséabondes qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du château où nous sommes protégés, le peuple est protégé, et le pont-levis fermé pour ne pas laisser l'occupant, l'ennemi, entrer. L'occupant, l'ennemi, ça a été à une époque les épidémies, ça peut être aujourd'hui la pauvreté, ça peut être pour certains l'Europe, ça peut être pour d'autres l'OTAN, à voir. Pour d'autres encore, ça peut être le djihadisme, etc. Ou tous les sectarismes de tous bords. Donc, cette idée d'un château fort qui protège la population d'un territoire, ça date du Moyen-Âge. C'est le fondement même de la cohésion de nos territoires, qui commence par le féodalisme. Et puis, c'est aussi profane, la notion de fraternité, parce que ça rejoint la notion d'instinct grégaire. Et là, je pense aux tribus gauloises, un vieux réflexe de nature sociétale et très français qui vise à créer des liens indéfectibles entre individus afin de créer la cohésion nécessaire à la survie du groupe en tant qu'entité distincte des individus qui la composent. Autant d'éléments qui relèvent du champ lexical propre à la nation. Un champ lexical qu'on se doit à la fois de nettoyer et de moderniser de façon à ne pas tomber dans la préhistoire. Bien entendu, l'idée de nation, de cohésion, d'identité est importante, mais c'est une notion qui doit savoir s'interpréter avec les présupposés d'aujourd'hui, qui vont, eux, vers l'ouverture et la mixité. Justement, donc tout ça, le renfermement, c'est ce que nous voulons écarter de notre conception républicaine. En d'autres termes, les concessions qui ont été faites au champ d'événements liés au concept de fraternité seraient une porte ouverte à une conciliation entre la notion de république et la notion de nation, bien davantage qu'un abandon lâche de cette dernière au nationalisme. Donc là, j'appelle chacun d'entre nous à repenser à cette idée de nation. La nation, c'est pas juste, la propriété du Front National ou du Rassemblement National, pardon. La nation, c'est la propriété de la République. C'est à nous de la définir. Et je reprends nous Français tous, en commun, en fraternité. Je reprends ici la définition de Ernest Renan. Qu'est-ce que c'est que la nation ? C'est un projet à long terme, élaboré par tout le monde et pas seulement par un groupe minoritaire d'individus. Donc, c'est à nous de ne pas nous laisser prendre notre nation, c'est à nous de la créer, c'est-à-dire d'en accoucher. Il s'agit pratiquement là d'un accouchement. Cette interprétation permet de conserver cet héritage qui fait appel au pire moment de notre histoire. Donc, j'ai cité quelques passages de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, mais je pense aussi à l'union sacrée en 14-18 et à la mise en œuvre du patriotisme pendant les deux guerres, notamment la Première Guerre mondiale, mais aussi la Deuxième. Elle répond également comme un ricochet au mot si galvaudé de nationalisme, terme que beaucoup utilisent sans vraiment le comprendre ni en saisir les implications. Comme tous les mots en isme, c'est une dérivation négative d'un terme qui au départ est positif, le terme de nation. Deux livres que je vous conseille, Colette Beaune, Histoire de la nation France, elle nous parle des saints symboliques du royaume, Saint-Denis puis Saint-Michel, de Jeanne d'Arc, qui fait appel à un esprit commun qui a été aujourd'hui un peu perdu et qui a été récupéré d'ailleurs notamment par l'extrême droite, ce qui est dommage aussi parce que là encore, derrière cette symbolique de Jeanne d'Arc, qui est quand même une femme qui a eu le courage de ses opinions et qui a eu le courage de mener une armée alors qu'elle savait pertinemment qu'elle allait certainement mourir, même si elle gagnait, elle a mené son devoir jusqu'au bout. Elle a réussi à remettre une couronne sur la tête d'un roi en France, au lieu que ce soit d'autres États qui commandent la nation France. Et donc, c'est une symbolique que l'on se doit de mettre en avant sans récupération par l'extrême droite. C'est pas un symbole d'extrême droite, Jeanne d'Arc. C'est pas un symbole de nationalisme. C'est une symbolique de nation qui va de l'avant, qui a un projet. Et lorsqu'elle met la couronne sur la tête du roi Charles VII, qu'elle l'amène au sacre à Reims, qu'elle est présente à ce sacre, alors qu'au départ elle n'était rien, eh bien, elle représente tout le peuple français qui dit à son souverain, qui le représente, qui le symbolise, avec toute la symbolique qu'il y a derrière l'idée du sacre d'un roi, que c'est à lui de prendre son destin en main, et sa chose économique et sa chose publique. Comme aujourd'hui, on se doit de le faire pour demander à tous les Français d'agir en fraternité, dans un concept de grande fraternité entre toutes les factions politiques qui peuvent exister sur la scène politique française, au-delà de nos rivalités, de nos différences et de nos envies, de nos motivations, de mettre en place un vrai projet de nation française, sans que cela soit confondu avec une quelconque recrudescence de l'extrême droite. Bien au contraire, si on arrive à réaliser ce défi-là, l'extrême droite n'aura plus de raison d'exister ou de mettre en avant certaines fâcheuses tendances qu'elle a à rejeter une partie de la population ou à faire du négationnisme historique. Voilà. Ou une mauvaise interprétation de l'histoire de France. Donc voilà pour reparler de la symbolique du livre de Colette Beaune. Il est très intéressant ce livre-là, Histoire de la nation France. Donc voilà, il y a plein d'autres livres dont je pourrais vous parler, mais enfin bon, je vais pas me mettre au point une bibliographie complète ici. Je vais vous passer une nouvelle chanson, parce que cette chanson-là, on vient juste de parler de grande fraternité, du devoir que nous avons, nous, Français, pendant les 5 ans à venir, de mettre en place cette grande fraternité, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, pour faire quelque chose, que notre société s'améliore et que la France reste un État important dans le monde, non pas parce qu'elle fait la guerre en suivant l'OTAN, mais bien au contraire, elle est promotrice de paix, c'est ça le projet français à travers les âges, à travers les siècles. Et donc, j'appelle donc tout le monde à être copain. Et c'est pour ça que je vais passer la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Ils naviguaient en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Voici Georges Brassens, Les copains d'abord. C'est une chanson intemporelle, universelle, qui est assez exceptionnelle si on écoute les paroles. Et surtout, le rythme de la guitare, bravo. Donc, j'allais revenir au sens du mot fraternité, et on pourra encore en parler pendant des heures. On a parlé du sens profane du terme fraternité, on a commencé par le profane, parce que finalement, on est dans un état laïque et républicain. Mais on se doit aussi de ne pas oublier et occulter le sens religieux et presque mystique du terme fraternité, son sens sacré. Et Dieu sait si aujourd'hui, pardon, je n'aurais pas dû, je voulais dire, si aujourd'hui on a une obligation de préserver ce qui est sacré, notamment via notre constitution. La charité peut se représenter comme un bateau, c'est le bateau France, emblème de la ville de Paris, qui d'ailleurs a pour devise « fluctuat nec mergitur », un bateau qui ne coule jamais. Un bateau qui n'a jamais coulé, même lorsque à l'époque de Géricault, ou à une certaine époque, le peintre Géricault le représentait comme un radeau, quelques bouts de bois collés les uns aux autres qui flottaient désespérément, portant le peuple français exsangue et allongé sur cette espèce de radeau qui continuait à flotter avec une lueur d'espoir. Au sommet du mât, un métis, voyant du haut de son sommet la terre ferme apparaître. Et donc, forcément, une victoire finale pour la nation française qui, on le voit, et c'est, je pense, le message de Guéricault, c'est dans la mixité et la diversité que la France peut trouver sa voie. Pour en revenir à la charité, moi on parlait de grande fraternité tout à l'heure, j'allais parler de grande charité. Et il faut bien reconnaître que sur le plan historique, comme nous avons sous l'Ancien Régime un État qui était très religieux, on disait que la France était fille de l'Église, la grande charité a d'abord été définie par l'Église. C'est l'œuvre sociale de l'Église telle qu'elle a été représentée par exemple dernièrement à Paris à l'exposition « Deux siècles d'aide sociale », « Regard sur un héritage », 1796-2013, c'est une exposition qui était très intéressante, au pavillon de l'Ermitage dans le 2e arrondissement. Et cette exposition décrivait l'aide sociale des dames entre 1796 et 2013. Et il faut bien reconnaître qu'à l'époque, la charité, le système de redistribution n'existant pas, c'est grâce à la charité, au principe de charité, qu'on arrivait à aider certaines personnes à survivre et avoir une vie sociale. Par exemple, on élevait les jeunes femmes au couvent. Voilà, donc tout ça, ça a laissé une trace, ça a laissé une mémoire. C'est ce qu'on appelle la grande charité et qu'on peut retransplanter aujourd'hui dans un jargon plus républicain pour mettre en place une grande fraternité. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit y avoir consécration des inégalités, les plus riches et dans les plus pauvres. Bien au contraire, cela doit s'interpréter dans la mesure du possible comme des mesures de politique publique visant à résorber les inégalités, des mesures concrètes, pragmatiques, efficaces. Le bateau France, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est un bateau, c'est le bateau de nos politiques économiques. Quand il y a une tempête, le bateau tangue. Il doit rester malgré tout, à flot et continuer à avancer. Et lorsque la mer devient plus calme, nous pouvons à ce moment-là davantage disserter sur certains termes importants et peut-être envisager du long terme. Ça, c'est très important aussi. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est comprendre que pour faire naviguer un bateau, il ne faut pas penser qu'au plus urgent. Bien entendu, pendant le plus urgent, on doit être opérationnel et très vigilant. Ça va être le cas, par exemple, dans les périodes des périodes comme celles où on a mis en place l'état d'urgence. Et là, à ce moment-là, il faut être très vigilant. Et bien entendu, il ne faut pas faire retomber la vigilance, comme on a pu le faire, par exemple, en évacuant certaines troupes au Mali, parce qu'on voit bien que ça a conduit à une aggravation de la situation. On aurait dû rester. On aurait dû aider le Mali à avoir un régime politique plus efficace en la matière. Et malheureusement, notre départ a causé des aléas assez négatifs sur l'issue de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, puisqu'on voit bien que ça s'étend dans le sud de l'Afrique de l'Ouest. Donc il ne faut jamais relâcher la vigilance. Il faut toujours garder la vigilance pendant un moyen terme. Mais en même temps, on ne doit jamais perdre l'idée de l'aboutissement de notre voyage. Lorsqu'on est sur ce bateau, on évite les écueils dans l'instant présent, mais il faut toujours garder à l'esprit l'issue de notre voyage qui, elle, est à long terme. Et c'est le général de Gaulle qui disait qu'une vraie politique se menait toujours à long terme. C'est pour ça qu'il disait que le président de la République était au-dessus des partis, parce que étant au-dessus des partis, je veux dire au sommet du mât, il était le plus à même de voir ce vers quoi on allait, les objectifs de long terme, que notre stratégie mise en place grâce à des objectifs de moyen et de court terme peut nous permettre de rejoindre. C'est pour ça que j'utilise le terme charité pour qualifier tout ça, parce que les bonnes choses, les choses positives ne peuvent se faire que dans le respect des uns et des autres et dans l'amitié entre les uns et les autres. C'est ce que nous dit Georges Brassens lorsqu'il nous dit « les copains d'abord ». Georges Brassens, il a un message de charité et de fraternité. Il était peut-être même franc-maçon, j'en sais rien. Ça, je ne connais pas toute sa vie par cœur. Mais en tout cas, il nous parle d'amitié entre les uns et les autres. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et pas en laissant se véhiculer la haine entre les citoyens français. Donc, le terme charité est aujourd'hui peu utilisé, puisque comme nous sommes dans un État laïque, il est souvent mal interprété, il est interprété dans un sens exclusivement religieux, mais il fait partie quand même de la doxa française qui se veut non pas uniquement capitaliste et libérale dans l'esprit, mais qui se veut aussi, on le sait beaucoup, on dit social, aujourd'hui on n'a plus envie de dire social, on dit pragmatique éclairée. Et donc, c'est dans ce but-là que j'ai fait cette émission, parce que je voulais parler du principe de fraternité. Il y a encore beaucoup à dire. Et là, aujourd'hui, il n'y a que moi qui parlais, et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir arriver à organiser un débat autour de ce terme de fraternité, parce que je pense que ça sera encore plus constructif s'il y a d'autres personnes qui peuvent en parler. Je voulais juste dire que ce principe de fraternité a été beaucoup récupéré. D'abord, il est issu de la doctrine sociale de l'Église, en tant que référent, et cette doctrine sociale de l'Église a été beaucoup récupérée par la gauche française. Mais n'oublions pas qu'un jour, un présidentiable a dit à un autre, à la télévision, à l'époque où tout le monde regardait la même chaîne, donc où tous les Français ont vu et entendu, « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Donc, attention à ne pas, parce que je lis encore ça dans le journal, mal interpréter notre scène politique française et l'avenir de nos partis politiques, en pensant que la droite se voudrait la représentante uniquement d'une certaine frange entrepreneuriale qui innove et qui crée, et puis que de l'autre côté, la gauche, elle, serait la récupératrice de cette fameuse doctrine sociale de l'Église qui met en avant des principes de charité, de fraternité. Pas du tout. La fraternité, la charité avec un C majuscule au sens mystique du terme et non pas religieux, enfin au sens exclusivement religieux dans un sens sectaire, c'est un terme qui doit, ce sont des termes qui doivent être mis en avant pour tous et non pas uniquement pour certains mouvements politiques qui, pour remplacer le vide laissés par leur absence de réflexion sur notre avenir économique, auraient récupéré ces discours fraternels et charitables pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors qu'on voit bien comment ça se passe, quand c'est le cas, peut-être que même qu'on est encore plus noyé sous les flots des yachts, des milliardaires et de la flotte américaine ou allemande. Voilà. Donc, le bateau France continue à naviguer. La semaine prochaine, nous continuerons à parler du principe de fraternité parce que c'est un principe qui est important et j'aimerais qu'on puisse continuer à en discuter. Si peut-être que même que cela fera l'objet d'un débat avec d'autres invités. Je vous laisse en attendant passer une excellente semaine, réfléchir au principe de fraternité, écouter la chanson « Les copains d'abord » de Georges Brassens en pensant que ça nous concerne tous. Bonne semaine à chacun et chers auditeurs, Radio Galère, mais de résistance, 88.4.